13h, à Paris 11h, temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Et bienvenue si vous nous rejoignez, cette RFI midi qui commence. Nous sommes ensemble pendant 2h30 pour un tour complet de l'actualité internationale de ce jeudi 30 avril 2026 avec à la une le Sud-Liban sous le feu persistant d'Israël. Le président libanais Joseph Aoun appelle la communauté internationale à faire pression sur l'État hébreu pour qu'il respecte la trêve. Les forces israéliennes qui justifient toujours leur opération comme moyen de lutter contre le Hezbollah. Et aujourd'hui notre invitée sera la chercheuse Lina Khatib. Elle a enquêter sur les réseaux de financement du mouvement chiite libanais qui passe par plusieurs continents et notamment l'Europe. Rendez-vous à 12h20, temps universel. Les conditions de travail dégringolent dans le monde entier pour les journalistes. C'est l'alerte lancée par Reporters sans frontières. Une liberté de la presse au plus bas depuis 25 ans et le continent africain n'est pas épargné.
Ce qui concerne l'Afrique, la liberté de la presse n'a jamais été autant malmenée dans notre continent, notamment en Afrique subsaharienne. Une région en proie à l'instabilité politique, comme on le voit souvent dans certains pays des Grands Lacs, comme on le voit également dans certains pays du Sahel central.
Entretien avec Sadibou Marong de RSF à écouter dans Afrique Midi. Et on reviendra aussi dans cette édition sur la situation au Mali, bien sûr, où se tiennent aujourd'hui les funérailles du ministre de la Défense, Sadio Camara. Rendez-vous pour ça dans 1h30. Oppressé par la Russie à l'approche des législatives de juin prochain, l'Arménie au centre d'un vote de soutien des eurodéputés. En France, Emmanuel Macron promet de faciliter la titularisation des praticiens de santé diplômés hors UE. Tanita Fallet vous explique tout dans 30 minutes. Et puis RFI vous présente aussi la dernière création d'une star de la musique béninoise qui continue de rayonner après 40 ans de carrière. Le titre No Stopping Us d'Angélique Kidjo qui sort Hope, son nouvel album à découvrir dans 50 minutes dans notre choix musical. Vous avez le programme de ce RFI Midi, bienvenue. Et tout de suite, un nouveau journal avec vous, Candice Mazot-Tomasic. Bonjour Candice.
Bonjour Paul, bonjour à toutes et à tous.
Et avec à la une donc cette prise de parole du président libanais sur les frappes israéliennes sur son pays.
Joseph Aoun parle de violations persistantes de la trêve par l'État hébreu, malgré donc ce cessez-le-feu en vigueur, démolition, bilan de victimes qui ne cesse d'augmenter. Le chef de l'État appelle à faire pression sur Israël pour qu'il respecte le droit international. Pendant ce temps, c'est toujours l'incertitude qui plane autour d'une éventuelle reprise de bombardements américains sur l'Iran. C'est en tout cas l'une des options envisagées par le CENTCOM, le commandement central américain qui doit présenter dans la journée à Donald Trump plusieurs plans d'action pour débloquer les négociations avec Téhéran. La République islamique où la gestion du pétrole va commencer par poser problème. Il ne resterait en effet plus que quelques jours de capacité de stockage de son or noir. Avec le blocage du détroit d'Hormuz par Washington, Téhéran ne peut plus exporter son brut, écroule donc sous sa production de pétrole. Une situation, Pierre-Olivier, qui pourrait coûter très cher à l'Iran et avoir des répercussions internationales.
L'Iran stocke par tous les moyens les centaines de milliers de barils extraits chaque jour de son sous-sol. Pétroliers en mer, vieux conteneurs, réservoirs délabrés. Car fermer les puits de pétrole peut causer de lourds dommages aux installations et les rouvrir est très long, avec bien sûr des répercussions économiques. Omayoun Falakshahi, responsable de l'analyse pétrolière chez Kepler.
Le stockage pour le pétrole iranien devrait atteindre une limite critique dans les 20 jours. Donc si le blocus est maintenu, les revenus pétroliers de l'Iran, actuellement ils sont autour de 5 à 6 milliards par mois de dollars, ils pourraient tout simplement tomber à zéro.
Après la fermeture du détroit d'Hormuz par Téhéran, qui ne laissait sortir que ses propres navires, le contre-blocus américain a changé la donne.
Jusqu'à ce que le blocus soit en place, le temps était plutôt en faveur des Iraniens, qui savaient que plus le détroit reste fermé, plus les prix vont monter, moins l'économie mondiale sera en mesure de tenir le choc. Alors que là, tout est remis à zéro. Et en fait, les Iraniens aussi ont une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec ce blocus.
Au-delà de l'impact financier pour Téhéran, la fermeture des puits iraniens aurait des répercussions pour toute la planète, en passant d'un choc pétrolier temporaire à une baisse durable de la production mondiale.
Pierre-Olivier du service économie de RFI, vous venez de l'entendre, le détroit d'Hormuz reste donc bloqué. Il faudra s'attendre à ce qu'il le soit pendant encore plusieurs mois. Prévision du président américain lui-même hier face au patron du secteur pétrolier. Résultat, les prix de l'or noir continuent de s'envoler. Ce matin, le baril a atteint les $125, le niveau le plus haut depuis le début des hostilités au Moyen-Orient.
C'est dans ce contexte que sera organisée demain en France la traditionnelle mobilisation syndicale du 1er mai.
Une fête du travail célébrée dans un climat social particulièrement tendu cette année. Entre l'inflation persistante, la hausse des prix des carburants due à la guerre au Moyen-Orient et ses inquiétudes sur le pouvoir d'achat. Alors hier, le gouvernement a tenté de rassurer Charlotte Turéyen-Tomaka avec plusieurs annonces.
C'est un numéro d'équilibriste que tente l'exécutif. Rester ferme tout en jouant l'apaisement et en se montrant offensif pour lutter contre la hausse des prix des carburants. Échaudé par le précédent de la crise des gilets jaunes, le président a fait passer un message en Conseil des ministres, relayé par la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
Nous sommes dans un contexte géopolitique qu'il a qualifié d'hautement incertain. Il a demandé à l'ensemble du gouvernement de continuer à recevoir les professions concernées pour apporter d'éventuelles nouvelles réponses, réponses ciblées. Évidemment.
Et alors qu'une taxation des super-profits pétroliers est réclamée par la gauche et certains pays européens, Maud Bréjon annonce désormais que la porte est encore ouverte.
Personne ne doit profiter de cette crise et aucun super-profit ne doit être réalisé, a fortiori, en France.
Devant les sénateurs, lors des questions au gouvernement, Sébastien Lecornu a pris un engagement ferme.
Chaque euro de surplus de fiscalité prélevé à la pompe vont être affectés au mécanisme d'aide directe.
Interpellé par le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, Sébastien Lecornu met la pression sur le géant pétrolier.
Il faut bien que Total Energy se positionne sur une manière de redistribuer.
Plus largement, le Premier ministre s'est dit ouvert pour trouver d'autres solutions, tout en balayant l'idée selon laquelle l'État serait en train de profiter de la crise.
Charlotte Turéyen-Tomaka, 11 Français de la flottille pour Gaza interceptés par les forces israéliennes.
Oui, ils font partie des 211 personnes arrêtées cette nuit par l'État hébreu au large de la Crète. Un peu plus tôt dans la journée, Israël confirmait l'interception de plusieurs embarcations qui prenaient la direction de la bande de Gaza. Ces dernières semaines, une cinquantaine de bateaux étaient partis de plusieurs pays européens avec pour objectif de briser le blocus humanitaire que l'armée israélienne continue d'imposer à l'enclave palestinienne. 28 millions d'euros supplémentaires pour protéger la communauté juive britannique, annonce de la ministre de l'Intérieur au lendemain de l'attaque au couteau survenue dans le nord de la capitale et qui avait fait 2 blessés. Synagogue, école, lieu de culte, elle précise que cette nouvelle enveloppe permettra de renforcer la sécurité des fidèles au Royaume-Uni. Le suspect a été arrêté pour tentative de meurtre. La police évoque une attaque terroriste. On fera le point avec notre correspondante à Londres dans le journal de 14h midi, temps universel.
Lui exige plus de détails sur un arrêt temporaire des combats le 9 mai prochain.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit ce jeudi sur X vouloir en savoir davantage sur la proposition russe de trêve à cette date, ce jour où le Kremlin célèbre la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Un cessez-le-feu évoqué lors d'un entretien téléphonique hier entre Vladimir Poutine et Donald Trump. C'est dans ce contexte que l'ONG ukrainienne Truth Hounds et la Fédération internationale pour les droits humains ont présenté hier leur nouveau rapport. Combattants, mercenaires ou victimes de trafic d'êtres humains. C'est le titre de ce texte qui met en lumière les méthodes de recrutement des combattants étrangers dans l'armée russe et qui dénonce des mécanismes illégaux d'exploitation des étrangers par Moscou. Les précisions depuis Kiev avec Emmanuel Chaz.
Le recrutement n'est pas nouveau, mais il augmente chaque année pour pallier le manque de volontaires et éviter une nouvelle mobilisation pour alimenter ses assauts en Ukraine. La Russie se tourne vers les combattants étrangers, une pratique dénoncée par True Sounds et par la FIDH qui dénonce des violations des droits humains. Kenza Harmawi, chercheuse et co-autrice du rapport, explique.
Il y a certains enrôlements qui sont faits sur la base d'offres d'emploi qui promettent un emploi civil avec un salaire assez élevé, en précisant que les pays d'où viennent la plupart des étrangers ont des situations économiques et sociales assez compliquées, donc les salaires qui sont aux alentours environ de 2 000 $.
Une fois arrivés sur le territoire russe, les étrangers sont escortés directement dans des bases militaires où leurs passeports et téléphones sont confisqués. Dmitro Ousov, secrétaire du Centre de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, explique.
Le problème ne réside pas seulement dans le fait que la Russie a l'habitude de conclure des contrats avec un type de recrutement prédateur, mais aussi parce qu'elle ne lâche pas ceux qui sont tombés directement dans ses griffes. C'est pourquoi tous les étrangers signent des contrats ou sont affectés aux entreprises des complexes industriels de la ville, puis utilisés pour la guerre.
Jusqu'à présent, en plus des 14 000 soldats nord-coréens envoyés par Pyongyang, plus de 28 300 combattants étrangers ont été identifiés. Plus de 5 000 d'entre eux sont morts au cours de leur premier mois sur la ligne de front. Et Dmitro Ousov avertit, cette année, Moscou a prévu d'en recruter au moins 19 000 de plus. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Moscou qui réagit concernant la situation sécuritaire au Mali.
La Russie poursuivra sa lutte contre l'extrémisme et continuera d'apporter son aide aux autorités en exercice. Déclaration signée Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, en conférence de presse tout à l'heure. La Russie qui rejette ainsi l'appel des indépendantistes Touareg à un retrait militaire du pays. Le week-end dernier, le mouvement du Front de libération de l'Azawad a mené avec les djihadistes du Jnim une série d'assauts coordonnés dans plusieurs localités. Des attaques qui ont notamment coûté la vie au ministre de la Défense, victime d'un attentat suicide visant sa résidence à Kati, le fief de la junte situé dans la périphérie de Bamako. Les obsèques de Sadio Camara sont toujours en cours.
RFI, il est 13h11 à Paris, 5h de moins à Buenos Aires, où le Parlement auditionnait hier le bras droit de Javier Milei.
Le chef du cabinet des ministres, Manuel Adorni, longuement interrogé sur des soupçons d'enrichissement illicite, des soupçons qui le poursuivent depuis plusieurs semaines déjà et qui paralyse l'action du gouvernement, Théo Conscience.
C'est peu dire que l'audition de Manuel Adorni au Parlement était attendue. Certains députés avaient même apporté du pop-corn pour écouter le chef du gouvernement de Javier Milei se justifier.
Je n'ai commis aucun délit et je vais le prouver devant la justice.
Dans l'éloge de la Chambre des députés, Javier Milei et le gouvernement au grand complet sont venus apporter leur soutien à Manuel Adorni. Mis en examen pour enrichissement illicite, le bras droit du président argentin est également soupçonné d'avoir menti dans sa déclaration de patrimoine.
Les membres de cette Chambre veulent assimiler mes dépenses privées aux dépenses publiques et mes activités privées à des actes officiels. Ces choses ne sont pas comparables ni sur le plan constitutionnel, ni sur le plan civil, ni sur le plan pénal.
Au-delà de ces accusations, Manuel Adorni est pointé du doigt pour son train de vie luxueux entre voyages en première classe, hôtels 5 étoiles et achats de biens immobiliers, au moment où son gouvernement applique un plan d'austérité drastique. Le député de l'opposition Pablo Juliano.
Vous avez promis que vous alliez en finir avec la caste politique et vous nous avez imposé une cure d'austérité. Et aujourd'hui, vous incarnez une nouvelle escroquerie. Il n'y a qu'une seule question qui tienne. Qu'attendez-vous pour démissionner?
Réponse de Manuel Adorni. Hors de question de démissionner. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et un mot enfin sur ce premier vol commercial direct entre les États-Unis et le Venezuela depuis 2019. Un avion doit décoller dans la journée de Miami direction Caracas. Cela faisait 7 ans et la rupture diplomatique entre les deux pays que cela n'était pas arrivé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. RFI Midi, ça continue avec vous, Paul Lancin Spinelli.
Merci beaucoup. 99.1.1.1.
Un chat, faire du piano, un mec à poil dans son frigo. Bienvenue au pays merveilleux de l'internet. Tu verras, on est bien et allez bien, on fait la fête.
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1.
HDR 99.1, le mix des cultures.
Retrouvez Retrouvons-nous pour l'Entre-Femmes tous les premiers mercredis du mois de 12h à 13h ou le samedi suivant de 14h à 15h sur Radio HDR 99.1 FM. C'est l'émission Sorore de femmes courageuses qui nous livrent au travers de leurs témoignages leur combat de vie. Parce qu'être une femme, c'est souvent la promesse d'un destin semé d'embûches. Partageons nos expériences afin de se reconnaître, se soutenir, se comprendre lors de notre entretien mensuel de l'Entre-Femmes sur Radio HDR 99.1 FM.
Soul Connection, la black music des années 60 et 70. Deux heures de plaisir toutes les semaines à déguster en trois étapes. En entrée, 60s et 70s soul classics, soul, disco, funk, en oldies comme plat principal. Et pour le dessert, dance floor soul connection, disco, funk, classique. Soul Connection, tous les jeudis de 21h à 23h sur HDR 99. À Rouen. Tous les mercredis de 18h à 20h sur Principe Actif 102.4 FM à Évreux et en podcast sur principeactif.net.
Qu'y a-t-il pour votre service ?
Ici Londres, votre émission un mercredi sur deux de 17h à 18h. Venez découvrir les portraits des associations, leur histoire, leur mission, leurs projets et leurs actus. Ici Londres, un mercredi sur deux.
À quelle heure dites-vous ?
De 17h à 18h. C'est sur le 99.1 FM HDR.
This a one is like a bullet. Haaland pull it, me select. I say Haaland pull it. This a one is like a bullet.
Well, come again, my selector.
Haaland pull it, me select. I say Haaland pull it. This a one is like a bullet. Killer, he be me lyric smoke under me pillar. Last year me sick, but I this year me killer. Nike me we a win out of me hell bigger. Bad monster GSC send me no rock.
Radio
HTR.
Le mix des cultures. Le mix.
Le mix. Le mix de toutes les cultures. C'est sur le 99.1
FM. 99.1
FM.
99.1 FM.
Radio HTR.
Ça séduit de la patronne, ça lui donne la bouchotte, le chant du rossignol
avec l'accent d'un pagnol.
Viens le déguster, ce bon sang de bonsoir. C'est pas Rastairon, c'est pas prêt, tu vas voir. Ton cœur en tourbillon, ton cœur qui va vouloir cadencer ta circulation sur les scans de guitare. Ton bassin à l'unisson, la basse le pouvoir. T'es une sorte de prison, le riddim balançoir. Le MC a raison, n'oublie pas, il faut boire de l'eau, du jaune et des glaçons pour sortir du trou noir.
Que des premières classes sur les titres de transport. Le contrôleur et le MC qui charge un peu plus fort. Alors